de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs solidaires, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer entre autres. H2O est très satisfait de la mise en place de la Cobike Toba, même si celui-ci est plein d'obstacles. Ministère des Transports propose aux aéroports d'Abu Dhabi de développer l'aéroport de Kertajati. Basnas collabore avec le Croissant Rouge égyptien pour distribuer de l'aide à la Palestine. Pour améliorer les services, Post Indonesia met en œuvre la technologie robotique. Consulat général indonésien aide les entrepreneurs indonésiens du café à entrer sur le marché malaisien. Maruf Amin invite la communauté musulmane de Slovaquie à faire écho à l'islam modéré. Indonésie et l'Autriche renforcent leur coopération dans le développement de BLK. Bonjour, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le fondateur de H2O, Nicolo de San Germano, a admis qu'il était très satisfait de la mise en œuvre du difficile championnat du monde de jet ski aquabike 2023 dans la région autour du lac Toba, au nord de Sumatra, du 22 au 26 novembre. Nicolo, lors d'une conférence de presse à l'arène Balige F1 H2O Toba Nord de Sumatra, dimanche 26 novembre, a déclaré que pour ses débuts, il s'agissait d'un événement très réussi. Lors du championnat du monde de jet ski aquabike 2023, H2O, en tant que principal promoteur, organise l'agenda dans quatre districts différents, à savoir Karo, Dairi, Samosir et Toba. Nicolas a admis que son parti avait délibérément demandé à l'Indonésie de fournir davantage d'emplacements autour du lac Toba. Pour le championnat d'aquabike, il a été indiqué qu'en raison de la diversité des lieux, le niveau de participation dans la catégorie endurance a augmenté. Le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, a proposé aux aéroports d'Abu Dhabi de devenir un partenaire stratégique pour le développement de l'aéroport international de Java West, BIJB, Kertajati. C'est la déclaration du ministre des Transports citée par Antara dimanche 26 novembre. Auparavant, le ministre des Transports de la République d'Indonésie, Budi Karya Sumadi, avait rencontré le ministre de l'Énergie et de l'Infrastructure des Émirats Arabes Unis, AU, Suhail Mohamed Al-Mazroui, et le directeur général des aéroports d'Abu Dhabi, cher Mohamed, lors de sa visite de travail à Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, samedi 25 novembre, heure locale. Le ministre Aboudi Karia a déclaré que l'aéroport de Kertajati devrait devenir le deuxième plus grand aéroport d'Indonésie après l'aéroport international Soekarno-Hatta de Jakarta, qui possède des marges potentielles pour le tourisme, la Omra et le Hajj, le frais et l'aérocité. L'Agence nationale indonésienne Zakat Amil collabore avec l'institution du Croissant Rouge égyptien Hilal Ahmar Égypte dans le début de faciliter la distribution de l'aide du peuple indonésien à la Palestine. Cette collaboration a été décrite dans un protocole d'accord signé directement par le président du Basnas de la République d'Indonésie, Noor Ahmad, et le chef du département des ressources et du marketing du Croissant Rouge égyptien, le docteur Sylvia Simon, au Caire, Égypte. C'est ce qu'a transmis Noor Ahmad dans sa déclaration citée par Antara lundi 27 novembre. Noor a expliqué que, par souci de transparence, Basnas a préparé une équipe d'accompagnement en Égypte pour assister directement à l'utilisation des fonds utilisés pour acheter des produits de première nécessité, au processus d'emballage des marchandises et à leur distribution à Gaza en Palestine. Parallèlement, le chef du département des ressources et du marketing du Croissant Rouge égyptien, Sylvia Simon, a expliqué que les fonds envoyés par Basnas seront directement dépensés pour répondre aux besoins de la communauté palestinienne de Gaza. L'équipe Basnas peut participer au suivi de l'achat de marchandises en Égypte. Post Indonesia SA Persero réalise la transformation et l'innovation en appliquant la technologie robotique et la technologie RFID ou Radio Frequency Identification pour faciliter le tri des marchandises. Citant Tempo dimanche 26 novembre, le directeur des opérations et des services numériques de Post Indonesia SA Persero, Hari Adi, a déclaré qu'à l'avenir, les machines de tri robotisées et la RFID seront utilisées dans le processus des opérations de livraison de marchandises. Il a déclaré que les deux technologies avaient été lancées au Centre de traitement postal SPP de Surabaya le 16 novembre 2023, puis suivies à Jakarta en décembre. La présence de cette machine de tri robotisée devrait permettre de réduire les coûts des ressources humaines RH dans la gamme des centres de traitement. En fait, on estime qu'elle peut réduire les coûts des RH de 60 à 80%. Le consul général indonésien à Johor Bahru en Malaisie, Sigit S. Widianto, a déclaré dimanche que son parti tentait de rapprocher leurs entrepreneurs indonésiens du café pour qu'ils commercialisent leurs produits sur le marché malais. Sigit Widianto a déclaré à Antara dimanche 26 novembre que l'intérêt des Malaisiens pour le café indonésien est croissant. C'est une opportunité pour les petites et moyennes entreprises indonésiennes d'exporter du café vers la Malaisie. Sigit Widianto a déclaré que le consulat général d'Indonésie à Johor Bahru réunira le 7 décembre trois entrepreneurs indonésiens du café avec des dizaines de membres d'associations de baristas et de cafés en Malaisie. Il a déclaré que cette activité serait la première dans la région de Johor Bahru et qu'elle devrait accroître les exportations de café de l'Indonésie vers la Malaisie. Le consulat général d'Indonésie fournira également des informations sur les procédures d'exportation de café vers la Malaisie afin que davantage d'entrepreneurs indonésiens puissent exporter leurs produits. Le vice-président indonésien Maruf Amin a invité toutes les communautés musulmanes de Slovaquie à promouvoir un islam modéré et tolérant sur le continent européen. Il a transmis cette invitation lors de sa rencontre avec la Fondation islamique slovaque à Bratislava, en Slovaquie, dimanche 26 novembre. A rapporté Antara, Maruf Amin a déclaré à la Fondation islamique slovaque que l'Indonésie est un pays très pluriel. L'Indonésie compte diverses religions et ethnies et applique le principe de l'égalité des statuts des citoyens et du respect des lois applicables. Était présent à la réunion le directeur de la Fondation islamique slovaque, Mohamed Shafwan Hasna. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire du ministère de la Main-d'œuvre, collabore avec l'Autriche pour développer des centres de formation professionnelle BLK afin d'améliorer la qualité des ressources humaines compétentes. Citant Antara dimanche 26 novembre, le vice-ministre de la Main-d'œuvre, Afrian Shanur, a déclaré dans sa déclaration que son parti avait exprimé sa gratitude au gouvernement autrichien pour son engagement à financer des activités visant à développer le centre de formation professionnelle maritime au centre de formation professionnelle et de productivité de Medan BBPFP et le développement du Banyuwangi BPFP. Afrian Shahnur a déclaré qu'il y avait deux programmes de vocation et de formation qui seraient développés dans le cadre du programme d'amélioration de la formation professionnelle grâce à des subventions étrangères autrichiennes au BPVP Banyuwangi, à savoir les vocations touristiques et techniques de soudage. BPVP Banyuwangi aura une capacité de formation accrue au métier du tourisme et au métier technique du soudage avec des qualifications européennes. Bon, chargé d'art, c'est tout. Les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, no. Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire dont le titre est « L'impact politique de la victoire de Geert Wilders aux élections néerlandaises ». La victoire du parti d'extrême droite, Parti voor de Vrijheid, PVV, ou Parti pour la liberté, dirigé par Geert Wilders aux élections néerlandaises du 22 novembre 2023, a dépassé toutes les attentes. Le PVV occupera certainement 37 des 150 sièges du Conseil représentatif du peuple du Parlement néerlandais. Ce parti est dirigé par Geert Wilders, homme politique controversé, connu pour ses déclarations racistes et anti-islamiques. Ce parti avait déjà remporté une victoire écrasante aux élections néerlandaises de 2006. Cette victoire a permis au PVV de devenir le parti le plus important à la Chambre des représentants dans sa nouvelle formation. Le PVV a réussi à gagner la sympathie des électeurs néerlandais, notamment sur la question de l'immigration et de l'asile. L'Europe, y compris les Pays-Bas, a été inondée d'immigrants et de demandeurs d'asile en provenance de divers pays touchés par les conflits ces dernières années. C'est assez inquiétant pour les habitants et il n'est donc pas surprenant que Wilders et son PVV reçoivent beaucoup de soutien. Ce résultat électoral met fin à l'ère de l'ancien Premier ministre Mark Rutte du Parti libéral VVD qui a gouverné de 2010 à 2023 avec un soulèvement populiste de droite qui a ébranlé le paysage parlementaire néerlandais jusqu'à ses fondations. Geert Wilders est auparavant membre du parti VVD et était d'ailleurs le professeur de Mark Rutte. Il a quitté le parti en 2004 parce qu'il n'était pas d'accord avec la ligne politique du parti et a fondé le PVV le 22 février 2006. Geert Wilders est connu pour recevoir souvent de graves menaces à la suite de ses divers discours de haine liés à l'ethnicité, la religion, la race et l'intergroupe. Ou Sarah est à l'anti-islam. Même si Wilders adopte une position plus douce à l'approche des élections du 2022 novembre, cela ne signifie pas qu'il a enterré les programmes du PVV, tels que l'organisation d'un référendum sur la sortie de l'Union européenne ou Nexit, ainsi que les politiques strictes d'immigration et d'asile. La victoire de Wilders a suscité l'inquiétude aux Pays-Bas. Les organisations sociales islamiques ont exprimé leur inquiétude. Un certain nombre d'ONG néerlandaises ont également organisé des manifestations pour protester contre la victoire du PVV dans les grandes villes comme Amsterdam et Utrecht. Même l'Union européenne a exprimé ses inquiétudes quant à la victoire de Wilders. La prochaine étape après les élections est la formation d'une nouvelle coalition gouvernementale néerlandaise. Les résultats des dernières élections rendent ce processus très compliqué. Malgré sa victoire, Wilders doit collaborer avec au moins deux autres partis pour former un gouvernement. Les partis de gauche sont clairement réticents à rejoindre une coalition sous la direction de Wilders. La droite a dû réfléchir sérieusement à la formation d'une coalition après que le parti VVD de l'ancien Premier ministre Mark Rutte a décidé de ne pas y adhérer. Pour l'Indonésie, où la majorité de la population est musulmane, la victoire de Geert Wilders est certainement un peu inquiétante. Même s'il est connu pour ses racines dans les anciennes Zandes néerlandaises, alias l'Indonésie, son père est historien néerlandais, sa mère est née à Sukabumi, Indonésie. Ses actions jusqu'à présent ont été assez inquiétantes. Il est à craindre que son attitude anti-islamique ait un impact sur les relations entre deux pays ayant une longue histoire. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'histoire d'aujourd'hui. Avec moi, Audrey. Nous allons commencer l'histoire d'aujourd'hui avec le 27 novembre 1983, un avion en provenance de Colombie s'écrase en Espagne. L'avion Boeing 747-283B appartenant à la compagnie aérienne Avianca en provenance de Colombie a eu un accident près de l'aéroport de Barajas à Madrid en Espagne. l'avion transportant 173 passagers et 19 membres d'équipage en provenance de Francfort en Allemagne et avait transité à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris en France, avait un accident dû à une erreur de pilotage. En conséquence, 183 des 194 personnes à bord de l'avion sont mortes. La compagnie aérienne a indiqué que l'avion sur la route Paris-France-Bogota-Colombie devait transiter par Madrid et Caracas-Venezuela. Cependant, l'avion Boeing 747-200 d'Afianza est écrasé et a explosé dans une zone vallonnée à 5 milles à l'est de l'aéroport Barajas de Madrid vers 1h du matin, heure locale. Sur tard, nous continuons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 27 novembre 2005. Les SEA Games 2005 ont eu lieu aux Philippines pour la troisième fois. Les Jeux d'Asie du Sud-Est 2005 ou les 23e Jeux d'Asie du Sud-Est SEA Games se sont déroulés aux Philippines du 27 novembre au 5 décembre 2005. C'est la troisième fois que les SEA Games ont lieu aux Philippines, après la première en 1981 et le deuxième en 1991. Pour cette troisième fois en tant qu'hôte, les Philippines sont devenues championnes du classement général pour la première fois. Les 23e SEA Games ont présenté des compétitions dans 41 sports, dans plus de 395 sports. Mani prépare les sites de match dans la région métropolitaine de Mani et dans les villes de Bacolod, Cebu, Les Baños et Chanlubang, Laguna, la ville Tagaytay, la ville Angeles, Pampanga, la ville Antipolo et Subic, Bay Freeport. Chers amis, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le 27 novembre 2020, attaque de Sigi, une famille tuée. Le 27 novembre 2020, une famille a été attaquée par des inconnus à Lemban Tongwa, Palolo Sigi, Sulawesi centrale. Ils ont été retrouvés morts dans une situation tragique autour de leur maison. Cette maison, dont une maison qui sert habituellement de lieu de résidence culte des chrétiens, ont également été incendiées. L'auteur a ensuite été identifié comme étant le groupe d'Ali Kalora des Mujahidines de l'Indonésie orientale, tandis que la victime a été identifiée comme étant Yasa. Sa femme s'appelait Naka, son enfant s'appelait Pedi et sa belle-fille s'appelait Pinou. Cette attaque a reçu des critiques de la part de divers partis du gouvernement aux organisations. Le président indonésien Joko Widodo a fermement condamné cette attaque et a indemnisé la famille de la victime. Pendant ce temps, la police nationale indonésienne a demandé à la communauté locale de rester calme et a invité les gens à porter leurs activités normales compte tenu de l'élection du gouverneur qui arrivera. Bon, chers auditeurs, c'est tout l'histoire d'aujourd'hui.
Simpan di hati yang tak dapat aku pungkiri, cinta, rasa cintaku padamu.
Cinta adalah satu anugerah. terjaga.
Bukan hanya cinta yang sesaat.
Yakinkanlah dirimu. Dan sambutlah kehadiranku.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, bonsoir, voici mon Indonésie ayant pour le titre « Le président inaugure le projet stratégique national Tangguh Train 3 ». Le président Joko Widodo a inauguré vendredi le projet stratégique national PSN Tangguh Train 3 situé dans la région de Teluk Bintuni, province de Papouasie-Occidentale. À cette occasion, le président a également posé la première pierre du développement des trois autres projets en Papouasie-Occidentale qui font partie du projet pétrolier et gazier en amont et de ses dérivés, à savoir le projet de captage, d'utilisation et de stockage du carbone, CCUS, du Badari, le projet en aval d'ammoniac bleu et le projet de Cham Asap Kido Merah, AKM. Le président Widodo a déclaré que le projet Tangguh Train 3 avait été construit avec un investissement de 4,83 milliards de dollars américains, soit l'équivalent de 72,45 billions de rupiah. Ce projet augmentera la capacité de production annuelle de GNL ou de gaz naturel liquéfié de Tangguh à 11,4 millions de tonnes par an et contribuera de manière significative à soutenir l'objectif de production de gaz de 12 pieds cubes standard par jour en 2030. Le président Joko Widodo a également exprimé son appréciation pour ce nouvel investissement. Le président a déclaré que ce projet absorbait beaucoup de travail. Actuellement, 70% du personnel opérationnel de Tangguh sont des travailleurs des provinces de Papouasie-Occidentale et de Papouasie. Pendant ce temps, le ministre de l'Énergie et des Ressources Minérales, Arifin Tasrif, a confirmé que l'inauguration marquait le début des opérations commerciales du train 3 et a souligné la contribution de Tangguh à la sécurité énergétique du pays et son ferme soutien au programme de transition énergétique vers zéro émission nette ou NZE en 2060. Arifin Tasrif a déclaré que la prochaine phase du projet Tangguh est au Badari CCUS ou UCC. En plus de générer une production de gaz supplémentaire, le projet injectera environ 30 millions de tonnes de CO2 jusqu'en 2035 dans les réservoirs existants. Le prochain projet qui sera également construit est la transformation du gaz naturel en naval en ammoniac à faible teneur en carbone avec un plan de production de 875 000 tonnes par an d'ammoniac bleu qui sera utilisé pour la combustion dans les centrales électriques et également dans les aciéries. Arefin a déclaré que ces projets en aval représentent la résilience de l'industrie pétrolière et gazière en amont de l'Indonésie dans l'exercice de ses fonctions au milieu de dynamiques et de défis à la fois mondiaux et nationaux. Pendant ce temps, le chef du groupe de travail spécial pour le pétrole et le gaz, Dwi Sucipto, a déclaré que la pleine exploitation du Tangguh Train 3 augmenterait la production nationale de gaz et renforcerait le rôle de l'industrie pétrolière et gazière en amont dans l'ère de transition énergétique pour soutenir le développement durable. C'est Juritar, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz, et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ce territoire tongalique situé à environ 200 km de Surabaya possède des attractions touristiques complètes, des plages, des grottes à la nature montagneuse. L'une des attractions touristiques à visiter est la colline de Banyan, située dans le village de Widoro, le district de Gandusari, Trenggalek. La colline de Banyan, qui se situe à 1175 mètres d'altitude, offre de très belles vues sur le lever et le coucher du soleil. Dans la zone vallonnée de Banyan, vous pourrez profiter de quatre beautés naturelles à des moments différents. À partir du lever du soleil, la terre au-dessous des nuages, le coucher du soleil et la terre des étoiles. Avec une étendue de nuages grumeleux recouvrant cette zone vallonnée, la vue de cette colline semble très exotique aussi bien le matin que l'après-midi. Pour voir la beauté du lever du soleil, il faut nécessiter bien sûr du beau temps. Le lever du soleil sur la colline Banyan est si beau qu'il apparaîtra entre les montagnes et les collines du côté oriental de la résidence de Trenggalek. Une fois que vous serez satisfait de profiter du lever du soleil, vous serez immédiatement présenté la beauté d'une collection de nuages couvrant les zones résidentielles ainsi que les collines. L'épaisseur de ces nuages dépend des conditions météorologiques. Mais si le temps est clair cette nuit-là, le brouillard qui apparaît est généralement mince, mais la vue sur la colline de Banyan est toujours magnifique. S'il pleut la nuit, les nuages sont très épais. On a même l'impression qu'ils sont au-dessous des nuages. De nombreux visiteurs de la colline de Banyan profitent du charme de cette terre au-dessus des nuages pour prendre des photos. En dehors de cela, vous pouvez également ajouter à la délicieuse atmosphère de la colline Banyan en commandant diverses boissons chaudes sur les stands situés au sommet de la colline Banyan. Pour vous rendre à la colline Banyan, qui se trouve à environ 13 km au sud du centre-ville de Trenggalek, vous n'avez pas besoin de marcher, car vous pouvez y accéder en moto ou en véhicule à 4 roues. Mais il faut être très prudent, car la route est en ciment coulé. En plus, il y a plusieurs pentes abruptes. Les visiteurs qui souhaitent profiter de la beauté de la colline Banyan se verront facturer un billet d'entrée assez bon marché, à savoir 5000 rupiah. Le prix du billet comprend le stationnement des véhicules, il n'y a donc pas besoin de frais supplémentaires. Les prix peuvent changer à tout moment, surtout à l'arrivée des vacances. Si vous souhaitez passer la nuit, vous pouvez installer une tente sur la colline de Banyan. C'est Jolie Talk, c'est le magazine Culture pour ce soir. Merci de votre attention. À bientôt.
Thank you.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di Desa Wisata. Di Desa Wisata signifie au village de tourisme. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Secangkir Kopi. Je répète, Secangkir Kopi signifie une tasse de café. Cette conversation a eu lieu entre Chris George Robinson, un vlogueur australien, et une femme du village de Hili Simaetano sur l'île de Nias. Chris savourait le café de spécialité de Nias en parlant de son traitement traditionnel avec la femme. Écoutons la conversation.
Saya sedang menikmati secangkir kopi. Rasanya khas.
Kopi di sini disangrai dengan menggunakan kayu bakar.
Oh, pantas. Ada rasa asap kayu.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Secangkir kopi. Secangkir kopi signifie une tasse de café. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Saya. Saya signifie je. Sedang menikmati. Sedang menikmati signifie en train de savourer. Secangkir kopi. Secangkir kopi signifie une tasse de café. Saya sedang menikmati secangkir kopi. Saya sedang menikmati secangkir kopi signifie je savoure d'une tasse de café. Rasanya. Rasanya signifie le goût. Khas. Khas signifie typique. Disangrai. Disangrai signifie roti. Kayu bakar. Kayu bakar signifie bois de chauffage. Asap. Asap signifie fumée. Dans la conversation, vous entendez l'expression « Saya sedang menikmati secangkir kopi ». « Saya sedang menikmati secangkir kopi » signifie « Je savoure d'une tasse de café ». Secangkir, je répète, secangkir signifie une tasse de, marque les unités du nombre de choses décrites. Par exemple, satu cangkir kopi. Satu cangkir kopi signifie une tasse de café. Pour décrire une quantité unitaire de choses, vous pouvez utiliser un mot comme secangkir. Secangkir signifie une tasse de devant des mots des expressions qui décrivent des choses. Un autre exemple, allez écouter un autre exemple d'utilisation du mot secangkir. Je répète, secangkir signifie une tasse de dans d'autres phrases. Secangkir teh. Secangkir teh signifie une tasse de thé.
Ambilkan saya secangkir teh. Ambilkan saya secangkir teh. Signifie apportez-moi une tasse de thé. Secangkir susu. Secangkir susu signifie une tasse de lait. Saya mau segelas susu. Saya mau segelas susu signifie je veux une tasse de lait. En dehors de cangkir signifie une tasse. En indonésien, il existe un mot qui désigne un récipient pour les boissons et les aliments qui peut être utilisé comme unité de quantité, par exemple. Glass. Glass signifie un verre pour les boissons. Et piring. Piring signifie une assiette. Mangkuk. Mangkuk signifie un bol pour les aliments. Par exemple, segelas air. Segelas air signifie un verre d'eau. Sepiring nasi. Sepiring nasi signifie une assiette de riz. Et semangkuk soup. Semangkuk soup signifie un bol de soupe. Avant de terminer apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Saya sedang menikmati secangkir kopi. Rasanya khas.
Kopi di sini disangrai dengan menggunakan kayu bakar.
Oh, pantas. Ada rasa asap kayu.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar, inikah pertanda? Namun ternyata salah, harapanku pun musnah. Sejak aku melihat kau selalu dengannya, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup pergi. Padanya memikirkannya, namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia ada yang punya. Telah ku coba menghapus bayang-bayang indah, tetapi selalu aku merindu lagi. Memikirkannya, namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, tolong aku jatuh cinta pada kekasih orang. Ingin lupa, ku tak bisa, sayang-sayang gak ada yang punya. Tuhan tolong, aku ingin dirinya, rindu padanya. Namun mengapa saat jatuh cinta, sayang-sayang dia.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson crunchon intitulée « Akad ». Chers amis, la chanson « Akad » est une chanson popularisée par Payung Teduh, sortie en 2017. La popularité de la chanson écrite par Mohamed Istiqamah Jemad, qui a été vue plus de 106 millions de fois sur YouTube, a incité une maison de production à adapter les paroles dans un long métrage. Cette chanson raconte l'histoire d'une invitation à se marier et c'est aussi une allusion aux couples qui sont ensemble depuis longtemps mais qui n'ont pas encore décidé de s'installer. Bonjour, je t'arrive, voici Paxi va chanter une chanson crunchon intitulée Akad. Bonne écoute.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, jalan bersamamu dalam cerit dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat terpisahkan tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.